Bonjour, messieurs, mesdames. Je suis très content d'être ici encore une fois. Et les prochaines 8 semaines avec vous. Je vais vous expliquer un petit peu le sens de ce cours. Quand le Collège de France m'a invité de prendre cette chaire, qui est la chaire Europe, langue et littérature au pluriel, je me suis dit qu'il serait intéressant de se pencher sur la question de qu'est-ce qu'est l'Europe. Grande question. Aujourd'hui, nous la posons dans un contexte bien grave, mais elle est toujours valable parce que cette identité a changé depuis les débuts. Et par les débuts, j'entends ce mythe grec de la princesse africaine Europe qui est enlevée et emmenée dans un site où elle va fonder le continent que nous appelons Europe. Donc, j'adressais cette question un peu trop longuement dans ma conférence inaugurale, mais il me semblait important d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, et ce n'est pas le même sens que ce mythe avait pour les Grecs et pour les Européennes qui ont suivi les Grecs. Pour nous aujourd'hui, quel sens peut-il avoir d'être sur un territoire, l'Europe, qui a été fondé par une femme enlevée, une femme violentée, une femme africaine, donc une immigrante, une réfugiée, nous allons voir qu'il y a tout un vocabulaire lié à cette conception. Je veux insister sur le fait que nous lisons ce mythe, que nous allons poser ces questions aujourd'hui à partir de le moment où nous nous trouvons, c'est-à-dire le 2 mars 2022, ici à Paris, en France, en Europe. Ce n'est pas la même question que se serait posé un Voltaire ou bien avant un Jules César et bien avant un Platon. La question pour nous est liée à une question fondamentale qui apparaît dans les débuts de toutes nos civilisations, mais qui est répondue de façons très différentes, qui est la question très simple de « qui suis-je ?». Et à cette question de « qui suis-je ?» s'ensuit « où suis-je ?». Il y a une anecdote que je trouve très, très fascinante. Le critique canadien Northrop Frye, malheureusement plutôt oublié aujourd'hui, mais nos mémoires sont très courtes, mais ça vaut la peine de revenir à Northrop Frye. Et Northrop Frye raconte qu'un ami à lui était en train de voyager dans le grand nord canadien avec son guide Inuit. Il y a une tempête de neige, il est complètement déboussolé, et le pauvre homme s'écrie « Mais nous sommes perdus !» Et son guide Inuit lui dit « Ah non, nous ne sommes pas perdus, nous sommes ici. » C'est ici, cette Europe, nous disons Europe, nous croyons comprendre qu'est-ce que nous voulons dire par Europe, mais en fait, en quoi consiste ce concept? Aujourd'hui, avec la tragédie de l'Ukraine, avec le positionnement de la Turquie, avec l'énorme poids qui ont des civilisations qui n'ont pas été liées directement au concept de l'Europe, par exemple au Moyen-Âge, comme l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Europe? Comment répondre à cette question? Est-ce qu'on inclut la Turquie? Est-ce qu'on inclut la Russie? Poutine disait à Madeleine Albright qu'il aimait beaucoup la cuisine chinoise, mais il ne pouvait pas y vivre. Il était européen parce que la Russie était européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réponse, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui? Bon. Je me suis proposé de discuter de certains classiques notoires de la littérature européenne. Et là aussi, j'ai un préjugé. Littérature européenne, classique, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour faisons simple, et j'ai choisi 8 œuvres que nous allons discuter le long de ces 8 semaines, parce qu'il me semble, sous cette étiquette d'européenne, qu'elles peuvent contribuer, à partir de nos lectures aujourd'hui, à en tirer certaines caractéristiques d'une supposée identité européenne. J'ai invité quelques amis à discuter avec ce concept après le cours, donc nous aurons une première heure où nous parlerons de cette œuvre et en essayant d'en tirer cette caractéristique, et ensuite avec une spécialiste dans un thème qui corresponde à cette caractéristique. Donc, j'ai une petite liste ici, mais c'est pas la peine, c'est publié sur le site, c'est pas la peine de le noter. Mais si vous voulez aller lire les œuvres avant la classe, je vous donne la liste. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Odyssée pour en tirer le concept justement de migration, d'exilé, surtout un concept qui a été développé par mon invité Reynos Papadopoulos, qui est un spécialiste de la psychologie des réfugiés et aussi des aides-soignants des réfugiés. Il a beaucoup travaillé le thème. Il a inventé ou conçu un terme meilleur que celui de, ou différent de celui d'exilé ou déplacé, qui est déplacement involontaire. En anglais, il écrit en anglais, c'est involuntary dislocation. Mais il m'a semblé qu'en français, déplacement est mieux que dislocation, qui serait un néologisme, mais qui est la même idée, l'idée de passer d'un endroit physiquement à un autre. Curieusement, c'est la même étymologie de traduction et de métaphore. Donc déplacement, traduction et métaphore veulent dire la même chose, donc ça nous arrange parfaitement pour discuter de ces œuvres comme une métaphore de ce déplacement involontaire. Après, nous avons, la semaine prochaine, nous allons parler de Don Quichotte. Et mon invité sera Roger Chartier, le grand spécialiste du Quichotte. Mais nous allons parler de Don Quichotte d'un point de vue tout à fait particulier. De la même façon que les mouvements de migration, de déplacement en Europe sont si importants aujourd'hui, ils l'étaient toujours, mais aujourd'hui spécialement, dans Don Quichotte, nous allons chercher deux concepts de justice. Justice sociale, justice individuelle. Qu'est-ce que peut faire un individu confronté à un acte qu'il voit comme injuste dans la société du point de vue de cet individu. Troisièmement, nous allons parler de la Divine Comédie. Nous allons parler de la Divine Comédie comme un exercice de mémoire. L'Europe est constamment en train de se référer à sa mémoire et surtout, malheureusement, à sa perte de mémoire. Qu'est-ce que Dante peut nous dire à ce propos? J'ai invité une spécialiste des techniques de la mémoire et des machines de la mémoire de la Renaissance, Lina Bolzoni, pour voir comment nous pouvons adresser la mémoire comme un aspect particulier de l'identité européenne. Quatrièmement, nous allons parler de Hamlet. Et nous revenons avec Hamlet à la notion d'identité. Qui est Hamlet? J'ai invité Shaul Bassi, un professeur de l'Université de Venise, spécialiste en Shakespeare, pour parler de cet aspect en particulier d'Hamlet. Mais vous allez voir qu'à chaque fois que nous allons discuter d'une œuvre, toutes les autres œuvres vont entrer dans la discussion, parce que une grande œuvre littéraire n'est jamais centrée sur un seul point. Même si l'auteur a voulu raconter une histoire d'une certaine façon, les lecteurs décortiquent l'œuvre et l'étend dans tous les sens et lui donne une certaine idée d'infini qui est dans l'œuvre, mais qui n'était pas mise là par l'auteur, qui n'y peut rien. Donc, dans la cinquième semaine, nous allons parler du Frankenstein de Mary Shelley. Pourquoi? Parce que je veux discuter de la question de science. Qu'est-ce qu'est la science en Europe? Qu'est-ce que l'éthique de la science depuis les Grecs jusqu'à nos jours? La question de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Toutes les recherches génétiques qui sont en train de se faire. Et j'ai invité un grand neurologue américain, John Krakauer, qui a développé des systèmes d'intelligence artificielle pour essayer de soigner des malades avec des problèmes neurologiques. Vous allez voir, c'est fascinant. Il va nous montrer sur l'écran comment les images électroniques peuvent aider le cerveau à se reconstituer. La sixième semaine, nous allons parler du Faust de Goethe. Et là, nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est ce savoir, cette connaissance que le docteur Faust veut avoir, et pour l'avoir, il vend son âme, elle est si importante, ce savoir. Et nous allons parler avec Gaston Buruccua, un spécialiste de l'histoire du savoir argentin, qui va nous rejoindre donc à la sixième semaine. Septièmement, nous allons parler de Kafka, du procès. Et je veux parler d'un aspect de l'identité européenne qui malheureusement est universelle, mais particulièrement européenne, qui est la bureaucratie. Et en la dernière semaine, nous allons conclure avec l'Orlando de Virginia Woolf pour parler de sexualité, genre, fluidité des sexes et j'invitais la grande poète portugaise Margarita Valdelgato pour parler de cet aspect-là dans le contexte de l'histoire de l'Europe. Donc, un grand programme. Nous allons voir comment nous allons le parcourir. Je voudrais vous dire, avant d'entrer dans le thème de l'Odyssée, que vous allez remarquer que je ne suis pas capable de suivre une ligne droite. Je m'en vais par les branches, je me perds, je ne sais pas pourquoi je suis allé discuter certaines choses, je reviens, et surtout, je n'arrive pas à des conclusions. Donc, c'est vous qui allez arriver à ces conclusions et peut-être me donner des réponses. Donc, nous commençons par l'idée centrale, il me semble, de l'Odyssée, qui est ce voyage plein d'obstacles. Le voyage de Ulysse illustre d'une certaine façon une caractéristique enracinée non seulement dans l'européenne, mais aussi dans la race humaine. Notre espèce est une espèce nomade. Et ça se retrouve partout dans les premières histoires, dans l'histoire de Gilgamesh. Gilgamesh est un roi obligé à faire un périple, d'abord pour rencontrer l'autre partie de la civilisation, qui est l'homme sauvage, Enkidu, mais ensuite pour aller chercher l'herbe qui peut sortir Enkidu du royaume des morts. Donc nous commençons nos littératures par un voyage. L'Odyssée est un voyage, et dans les différentes cultures de l'Europe, cette notion de voyage, d'exil, de déplacement, volontaire ou involontaire, est une caractéristique récurrente. N'oublions pas, nous ne pouvons pas oublier que, par exemple, dans les cultures judéo-chrétiennes, mais aussi islamiques, l'origine des histoires se trouve dans les heures que Adam et Ève ont passées dans le jardin du Éden, et ils ont été chassés pour une transgression, et ils ont commencé ce que est en fait le voyage d'exil qui est toute vie humaine. Donc, nos histoires commencent par un exil. Et ensuite, quand Adam et Ève s'installent avec leurs deux premiers fils, parce que l'histoire raconte qu'ils ont eu d'autres, Caïn et Abel, Caïn tue à Abel. Mais pourquoi? Parce que et Abel et Caïn font des offrandes à Dieu, et Abel offre ses moutons, son bétail, parce que Abel est il a du bétail, donc il doit être nomade, et il doit passer d'une saison à l'autre, à un pâturage à un autre. Mais Caïn, par contre, est agriculteur, et il fait une offrande de blé à Dieu, et ça, à Dieu ne lui plaît pas. C'est comme si Dieu n'était pas végétarien. Donc, il condamne, en certaine façon, Caïn parce qu'il n'est pas nomade. Et quand il tue Abel, Dieu le transforme en nomade, l'oblige à errer et il lui met une marque sur le front pour que personne puisse le tuer. Parce que l'exil, parfois, fait que l'exilé se sent avec un désir de mort, de finir tout ça, d'achever ce périple. Et Dieu ôte à Caïn la possibilité d'être tué et de se tuer. Donc l'exil est au début. Pour Dante, Dante va transformer, nous verrons ça quand nous parlerons de lui, il va transformer cette idée d'exil dans l'exemple de toute vie. Dante ne prend pas l'exil de Adam et Ève ni l'exil des Caïn comme exemplaire, il prend l'exil des Hébreux d'Égypte et il prend un verset du psaume 113, ils sont partis d'Égypte, et dans une lettre très importante qui certains spécialistes pensent que ce n'est pas de Dante, mais ça me paraît impossible que quelqu'un écrirait une lettre si particulière de comment lire la comédie avec des détails si précis comme celle que Dante a écrit à son protecteur Can Grande. Et dans cette lettre, Dante parle de ces versets du psaume. Et il dit, ça peut être lu de quatre façons différentes. Nous allons voir que n'importe quelle œuvre peut être lue de ces quatre façons différentes, à ces quatre niveaux. Le premier niveau, dit Dante, est littéral. Donc, nous pouvons lire, par exemple, l'Odyssée, tout simplement, comme le voyage d'un roi qui quitte la guerre, qui veut rentrer chez lui en Ithaque, et que pendant 10 ans, il est empêché de rentrer par la colère du dieu Poséidon et aussi des Zeus lui-même. Mais ça, c'est la lecture littérale. La lecture est allégorique. Dante dit qu'une lecture allégorique, c'est le passage, je ne veux pas me tromper, c'est le passage de l'âme d'un état à un autre par la rédemption du Christ. Après, il y a la lecture symbolique qui est pour Dante l'âme qui se transforme d'un état de péché à un état de grâce. Et finalement, la lecture anagogique, comme anagoge, c'est l'âme qui va être va achever sa rédemption dans le sacrifice du Christ. Et ces quatre niveaux peuvent être appliqués à l'Odyssée aussi. Mais en tout cas, nous revenons à l'idée de exil, voyage. Je m'arrête un instant pour dire que les classiques que j'ai choisis, mais sûrement tout autre que vous pouvez choisir vous-même, peuvent se lire des deux façons pour nous au XXIe siècle, comme des histoires d'action ou des histoires de réflexion. Les aventures d'Ulysse sont évidemment des actions du personnage. On va regarder certaines de ses aventures, mais aussi, après lecture, nous pouvons réfléchir à ces aventures et prendre une position politique, philosophique, éthique face à ces lectures. Nous avons des exemples littéraires de ces deux positions. D'un côté, si nous voulons, le lecteur qui passe à l'action, c'est Don Quichotte. Don Quichotte va lire ses romans de chevalerie, il va assumer l'éthique chevaleresque, il va passer à l'action. Donc, dès qu'il voit un acte d'injustice, il réagit activement contre, sans penser aux conséquences. Nous allons voir que souvent, quand il agit, et il agit en croyant qu'il est le juste contre l'injustice, les conséquences sont pires que l'acte qui a déclenché sa première action. Et le réflexif, qui est le personnage réflexif? Évidemment, c'est Hamlet, qui n'arrive pas à agir parce que constamment, il reste du côté de la réflexion. Il continue à poser des questions. Ce n'est pas si simple que ça. Nous allons voir, quand nous verrons le personnage de Hamlet, que dans la réflexion, il y a action aussi. Mais bon, restons là pour l'instant. Donc, l'Odyssée est un voyage de 10 ans. C'est curieux parce qu'il y a un équilibre entre l'Iliade et l'Odyssée qui laisse supposer que c'est ces deux œuvres du même auteur. On ne saura jamais, peut-être, il y a des spécialistes qui parlent de deux auteurs différents ou même de plusieurs auteurs. Samuel Butler disait qu'il avait des preuves que Homère était une femme, et Oscar Wilde et avait si marre de discussions à Oxford de si Homère avait existé ou non qu'à un moment donné il a eu marre et il a dit ben Homère ou un autre grec du même nom. Donc cet autre grec du même nom avait donc écrit peut-être l'Iliade, peut-être l'Odyssée. En tout cas, l'Iliade se passe pendant 10 ans. Le siège de Troie dure 10 ans. C'est une guerre sur place. Le voyage d'Ulysse dure 10 ans aussi, lui aussi, et se passe dans l'espace. Donc, c'est une histoire localisée à Troie, la première, l'Iliade, et l'autre est une histoire qui se passe dans la géographie du monde grec. Mais ces 10 ans ne sont pas 10 ans d'aventure. Dans ces 10 ans, Ulysse passe la plupart du temps chez la nymphe Calypso, chez la sorcière Circé, et il a que 40 jours d'aventure épouvantable, 41, 42 jours. Bon. Ces aventures sont un cumul d'histoires fantastiques. Il ne serait pas étonnant que plusieurs auteurs ont ajouté ses imaginations à cette histoire épique. Nous avons plusieurs exemples d'une structure narrative, par exemple les Mille et une nuits, et dans lesquelles plusieurs auteurs insèrent leurs histoires. Peut-être l'Odyssée s'est construite de la même façon. Mais peu importe, pour notre lecture aujourd'hui, au XXIe siècle, les aventures d'Ulysse se présentent comme les aventures d'un homme qui souffre injustement la sort qui lui dépare, les dieux, les circonstances. Et c'est là que je voudrais faire un rapprochement avec l'idée du réfugié, de l'exilé. Et là, je veux introduire quelques termes de vocabulaire pour signaler la différence de laquelle j'ai déjà parlé du concept de Papadopoulos du déplacement involontaire. Il y a exilé, il y a expatrié. Dans la littérature portugaise, le grand philosophe Eduardo Lourenço a fait la différence toute particulière dans son cas dans la littérature portugaise, parce que beaucoup de Portugais se sont exilés au XIXe, surtout au XXe siècle, et ils ont créé une littérature à l'extérieur du Portugal. Et donc, est-ce qu'ils se sont exilés ou est-ce qu'ils étaient expatriés? Demande Lourenço. Il fait la différence de cette façon. L'exilé est un immigrant pour Lourenço. C'est quelqu'un qui choisit de partir. L'expatrié, oui, peut-être choisit de partir ou doit partir, mais garde cette notion d'ancrage au lieu natal. Il y a un phénomène qui a été signalé, par exemple, par le grand poète Constantine Cavafy dans un de ses poèmes sur Ulysse, justement, qui s'appelle Ithaque. Celui qui doit quitter sa terre natale emporte avec lui une idée de cette terre. Et cette idée ne change pas ou change d'une façon qui ne correspond pas à la réalité historique de ce qui se passe dans ces lieux. Et vous pouvez constater ça si vous rencontrez des exilés, si vous êtes vous-même des exilés, qu'il y a dans l'imaginaire de l'exilé une géographie qui se développe à partir de la mémoire de la terre qu'il a quittée. Pour revenir à Adam et Ève, il y a plusieurs textes du Moyen-Âge qui font que Adam et Ève, surtout Ève, parlent de ce jardin de l'Éden qu'ils ont quitté. Et à chaque fois, ça change, parce que la mémoire est un palimpseste pour nous tous. Nous ne nous rappelons pas d'une chose directement, nous rappelons d'un souvenir de cette chose. Si nous rappelons de ce souvenir, nous rappelons d'un souvenir du souvenir, ainsi de suite, de façon qu'à la fin, après des années, notre souvenir de la terre natale est une toute autre terre créée dans notre imaginaire. Dans le cas de l'expatrié, Lourenço dit que ça se façonne comme ça. Après, il y a la notion de réfugié, de celui qui est exilé ou expatrié, mais qui cherche protection dans une autre terre. C'est allié à la notion de l'hospitalité à l'étranger. Nous allons revenir à ça parce que c'est important dans l'Odyssée. Donc, il va chercher protection, qui va chercher un sanctuaire. Après, il y a une épithète qui est donnée, non sûrement par l'exilé lui-même, mais par ceux qui le reçoivent souvent avec méfiance. Dans l'Odyssée, la réception qui lui font, par exemple, les cyclopes est une réception avec méfiance. Qui sont ceux-là? Et nous allons nous protéger et nous allons les manger dans le cas des cyclopes. Mais l'idée que l'étranger vient pour profiter de nous, de notre société, les raisons pour lesquelles il se déplace ne sont pas tenues en compte, mais nous voulons nous protéger au cas où il aurait des ruses, des tricheries à jouer chez nous. Le mot grec, je ne parle pas le grec, donc excusez ma prononciation, métis, veut dire russe tromperie, donne en français métèque. Donc l'étranger qui est un métèque parce que on imagine qu'il vient chez nous pour abuser de nous. Papadopoulos parle du déplacé involontaire parce que ce n'est aucune de ces choses-là, c'est la personne qui est obligée pour des raisons factuelles de passer à un autre endroit. Et il va nous parler sûrement de ça. Il fait une liste des raisons qui vont de celles qui sont absolument factuelles. Il y a une guerre en Ukraine. La personne est bombardée, doit quitter sa maison, qui peut-être n'existe plus, et arrive aux frontières. Donc ça, c'est factuel. Et après, il y a d'autres raisons que Papadopoulos va nous expliquer, qui ont à voir avec un état mental, avec des besoins, des nécessités, ou même des ambitions de vouloir étudier, travailler ailleurs. Dans le cas de Ulysse, ce déplacement s'est produit parce que Ulysse a de nombreuses caractéristiques comme personnage. C'est là que nous pouvons supposer justement l'intervention de plusieurs auteurs. Ulysse, dans la guerre des Troie, apparaît comme l'ingénieux, celui qui trouve les trucs pour entrer dans Troie, qui invente le cheval de bois. Cet épisode est raconté dans l'Odyssée, ou mentionné dans l'Odyssée, non par Ulysse lui-même, mais par un poète qui chante les faits de Ulysse. Et Ulysse est à la cour, il entend. C'est une de ces mises en abîme si étonnantes dans l'ancienne littérature. Le personnage qui entend sa propre histoire en tant que personnage. Ça arrive aussi avec le Quichotte. Dans la deuxième partie, le Quichotte avec Sancho à Barcelone sont dans une imprimerie. Ils voient imprimer le premier volume de ses aventures. Donc, ils peuvent constater la réalité du personnage dans le monde fictif à travers de la littérature qui soutient que ses aventures sont réelles. Donc, Ulysse est donc l'ingénieux. Ulysse est aussi un militaire cruel dans le Troilus and Cressida de Shakespeare. Il apparaît comme un militaire sans aucune compassion pour les autres. Et surtout, avant, dans les Troyennes d'Euripide, Ulysse apparaît comme quelqu'un sans aucune pitié envers Hécube et ses enfants. Donc ça, c'est un aspect d'Ulysse. Après, il y a l'aspect du poursuivi injustement. Parce que chez les Cyclopes, Polyphème veut le manger, Ulysse aveugle Polyphème et s'échappe assis à la laine d'un mouton. Et comme Polyphème est le fils de Poséidon, Poséidon s'enrage contre lui et à chaque fois que Ulysse essaye de partir, Poséidon provoque encore une tempête, provoque encore un obstacle à cette course d'Ulysse vers chez soi. Mais c'est plus complexe que ça. Et nous revenons encore une fois à l'idée de plusieurs auteurs. Parce que à plusieurs moments, il paraît que c'est Zeus lui-même qui est contre Ulysse. Parce que la première de ses aventures pendant ces 40 jours, Ulysse arrive au pays de Cicone et il saccage le pays. Il tue les hommes, il fait des esclaves des femmes. Donc, et comme les Cicones sont protégés par Zeus, par Jupiter, ne veut pas aider Ulysse. C'est par l'intervention d'Athénée qui Zeus consente à demander à Calypso qui le relâche et à Circé de l'envoyer chez lui après avoir passé par le pays des morts. Donc, il y a plusieurs Ulysses. Dans la Divine Comédie, Dante fait paraître encore un autre Ulysse. Dans le cercle des faux conseillers, Ulysse apparaît avec son compagnon Diomède dans une flamme à deux lambeaux. Et comme souvent dans la comédie, quand les pêcheurs ou les âmes apparaissent, les âmes sauvées apparaissent à deux, c'est seulement une qui parle. Et donc, dans l'enfer, au huitième cercle, la flamme qui contient Ulysse et Diomède, c'est seulement Ulysse qui parle. Et comme Ulysse, naturellement, parle grec, il parle dans un italien très exquis et il ne s'adresse qu'à Virgile qui accompagne Dante. Dante est un peu pour Ulysse, dans cette circonstance-là, un métèque. Il ne va pas parler avec n'importe qui. Il s'adresse à Virgile. Mais ce que Dante invente pour Ulysse, sans connaître l'Odyssée, parce que Dante n'avait pas accès à l'Odyssée, à Homère. Il avait entendu parler de lui dans des citations. Chesterton dit que nous avons le droit de parler de Homère comme un classique ou Shakespeare comme un classique sans l'avoir lu, parce que c'est dans l'imaginaire de notre culture. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons accepter. Et du même Dante, mais qui ne l'avait pas lu. Donc, je ne sais pas s'il connaissait la visite qui fait Ulysse au pays des morts, où il rencontre Tirésias, et Tirésias, le divin, qui divine le futur, lui dit qu'il rentrera chez lui après certains dangers, mais il semble lui vaticiner une dernière aventure. Mais est-ce une aventure après la rentrée à Ithaque ou une aventure avant? L'Ulysse de Dante dit à Virgile que peu l'importe l'amour de la femme, peu l'importe l'amour à son père, il veut partir dans une autre aventure. Il parle à ses hommes. Et vous imaginez, c'est là des vieillards, enfin des vieillards pour l'époque, lui disant que j'ai une belle traduction qui a été publiée dans la Pléiade. Je voudrais vous lire ce passage. Ulysse est en train de raconter à Virgile ce qu'il a dit, comment il a convaincu ses compagnons de faire cette dernière aventure. « Ô frère, dis-je, qui par 100 000 péris est venu à l'Occident et à cette veille si petite de nos sens qui leur reste seule, ne refusez pas l'expérience en suivant le soleil du monde inhabité. Considérez votre sémence. Vous ne fûtes pas fait pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance. » Plusieurs choses là. Ce monde inhabité, selon Dante, dans la géographie de Dante, quand Lucifer tombe au centre de l'enfer, il fait que les terres de l'hémisphère sud remontent vers le nord par horreur à la trahison de Lucifer. Donc, c'est un monde vide, senza gente. Chez Homère, le voyage que Ulysse fait au monde des morts est un voyage là où les gens ne mangent pas du sel. Il parle peut-être de l'Éthiopie, donc éloignée de la mer. Donc, c'est deux façons de caractériser un monde qui n'est pas son monde à lui. Donc, dans le poème des Dante, Ulysse entreprend une aventure qui est interdite, qui est au-delà des colonnes d'Hercule qu'on a mis pour signaler la fin du monde permis. Et Dante appelle ça, cette aventure, il folle volo, c'est-à-dire la fuite, le vol fou. Borges a remarqué que l'Ulysse de Dante est peut-être une image de Dante lui-même. Parce que Ulysse entreprend ses dernières aventures et il l'entreprend en dépit qu'elle soit interdite. Dante lui-même entreprend l'aventure après l'exil. Il a été exilé injustement de sa chère Florence à laquelle il ne retournera pas. Et sur le chemin, il compose peut-être le plus grand poème de l'histoire de l'humanité. Et c'est un poème d'exil, de déplacement involontaire, si vous voulez, pour ne jamais rentrer chez lui. Et qui se transforme dans sa lecture, dans nos lectures, comme un voyage de l'âme. L'âme qui va de la forêt obscure du péché par un chemin détourné, parce que quand Dante sort de cette forêt, il voit le monde illuminé auquel il veut avoir accès, peut-être le monde purgatoire avec le jardin de l'Éden, mais il y a trois bêtes qui l'empêchent de passer, et c'est le fantôme de Virgile, l'âme de Virgile, qui vient lui dire « Non, tu dois faire un autre chemin. » Et cet autre chemin le mène en enfer, le fait grimper le monde purgatoire, et à partir de là, de l'accès au jardin de l'Éden, ils vont aller au paradis. Donc, les différentes cultures ont plusieurs versions des voyages d'Ulysse. Par exemple, dans la culture du monde arabe ou persan, parce que les contes viennent de là, dans les mille et une nuits, les aventures de Sindbad. Les aventures de Sindbad semblent être un ajout aux aventures de mille et une nuits, aux contes de mille et une nuits, mais c'est en fait un voyage très semblable à celui qui fait Ulysse. Je voudrais faire une remarque à ce propos. Nous connaissons tous les aventures de Sindbad, malheureusement par Disney ou parce que nous les avons lues enfants. Mais nous oublions qu'il y a deux Sindbad. Il y a Sindbad le colporteur et Sindbad le riche homme qui reste chez lui, et c'est parce que Sindbad raconte au colporteur ses aventures que nous entendons ses aventures qui sont peut-être imaginaires. Comme dans Sindbad, le fait que l'aventurier doit raconter à quelqu'un d'autre ses histoires pour que nous, le public, les lecteurs de l'extérieur, nous les entendons. La même chose avec Scheherazade. Scheherazade compte ses histoires. Là, il y a trois passages, parce qu'elle compte ses histoires pour sa sœur, Déricyade, et c'est le roi qui les entend, et c'est nous que les lisons. Donc, il y a un passage à quatre. Dans l'Odyssée, les histoires d'Ulysse, l'histoire d'Ulysse est racontée plusieurs fois de différentes façons, morcelée par plusieurs personnages. Donc nous approchons l'histoire à chaque fois en croyant que nous la connaissons parce que nous l'avons entendue avant et nous passons à une autre version de l'histoire. Donc c'est important, je crois, que de voir comment l'auteur ou les auteurs nous permettent de saisir ces histoires et voir comment le récit d'un déplacé involontaire n'est jamais cohérent, n'est jamais tout en une pièce, doit se présenter de façon morcelée, parce que la personne qui doit subir ce voyage auquel il est obligé, lequel il est obligé d'entreprendre, ne peut pas raconter ça d'une façon logique parce que ça ne se passe ça ne se passe pas d'une façon cohérente, logique. Il y a des interruptions, il y a des trahisons, il y a toutes sortes d'obstacles, d'interventions, et ensuite, il y a la mémoire de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez vu quelques interrogatoires des réfugiés qui demandent asile, et on leur pose des questions et ils ne peuvent pas répondre d'une façon cohérente. Il n'y a pas, on ne peut pas répondre, bon, on m'a brûlé ma maison parce que aussi on a tué mes parents et aussi on m'a trahi sur la route. Et aussi, et aussi, et aussi, et c'est ça, comme ça que les aventures de l'Odyssée sont racontées. J'ai vu tout par hasard dans un des récits des déplacés involontaires d'Amérique latine vers les États-Unis, ce passage qui m'a semblé extrait de l'Odyssée. Je ne sais pas si vous allez penser du même. Et en 1992, un chercheur de l'Université de Guadalajara au Mexique fait l'interview à un des réfugiés migrants et qui lui raconte comment c'était cette expérience, cette tentative d'arriver aux États-Unis. Et il dit, le Nord, c'est comme la mer. Quand on voyage en tant qu'illégal, on est traîné comme la queue d'un animal, comme un détritus. J'imaginais la façon dont la mer rejette les détritus sur le rivage. Et je me disais, c'est peut-être simplement comme si j'étais dans l'océan, balancé et rébalancé encore. Et voilà ce qui arrive à Ulysse quand il quitte l'île de Calypso et Poséidon encore essaye de l'empêcher de partir, d'arriver à la côte. À ces mots, une grosse vague abrupte le frappa dans un élan terrible et fit chavirer le radeau dont l'héros fut projeté au loin. Il demeura enseveillé un bon moment sans pouvoir remonter sous l'assaut des puissantes vagues et le poids de ses habits. Les lectures de nos classiques sont multiples et transforment ces classiques dans des textes très divers. Je veux conclure avec une lecture de l'Ulysse de Dante faite par Primo Levi, Primo Levi à Auschwitz. Primo Levi à Auschwitz, il est prisonnier avec 4 ou 5 autres dans un groupe. Un de ces autres est un jeune Français qui demande à Levi, pensez-vous, dans les circonstances d'Auschwitz, demande de lui enseigner l'italien. Et, bon, ils ont quelques minutes, mais sinon, bon, on les pousse, c'est pas les circonstances idéales pour apprendre une langue. Et Levi pense à Dante, et il essaye de se souvenir de quelques versets de la comédie, et tout à coup, du fond de sa mémoire, lui arrivent les vers de Ulysse parlant à ses compagnons. Et ces vers qui, comme je vous disais, considérez votre sémence, vous ne fûtes pas fait pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance. Et là, Ulysse est pour Lévi l'image de lui-même, qui lui dit « Tu dois survivre, tu n'es pas une bête, tu n'es pas fait pour sombrer. » Et ces vers écrits 700 ans avant illuminent Lévi et l'aident à survivre. Je ne sais pas si nous pouvons trouver, je le crois, dans l'Odyssée, cette caractéristique de l'identité européenne, de nomadisme, d'itinérance, ou surtout, dès nos jours, surtout avec les 600 000 réfugiés qui jusqu'aujourd'hui arrivent de l'Ukraine, une autre façon de voir l'Europe. Il y a un concept grec qui, d'Homère en avant, qui est la philoxénia. Philoxénia veut dire l'amour ou le sentiment vers l'étranger. C'était une obligation de recevoir l'étranger dans les meilleures conditions, et il y a plusieurs instances dans l'Odyssée que cela se fait. Télémaque qui reçoit Athénée, il ne sait pas que c'est la déesse, il croit que c'est le chef d'un groupe de Grecs, et après Antinos, quand il reçoit Ulysse sans savoir qui il est. Et cela se continue. C'est une obligation, par exemple, dans la culture juive, dans la culture islamique, cette obligation vers l'étranger. Peut-être ça serait bien d'essayer de voir dans le contexte de notre Europe, avec l'idée de translation de migration comme métaphore, de déplacement involontaire, la contrepartie, la philoxénia, et essayer d'agir envers nos sœurs et nos frères comme si c'était nous. Parce que, en quelque sorte, nous sommes tous des étrangers, nous sommes tous dans une terre qui n'est sûrement pas la nôtre depuis la nuit des temps. Merci.